Car d'affaires ont toujours tard, donc nous allons débuter.
Écoutez, je vais faire ça très court parce que c'est pas moi que vous voulez entendre, mais bien notre conférencier. M. Costi est professeur agrégé et vice-président de l'Association néo-zélandaise de droit comparé. Il est également directeur du New Zealand Journal of Public International Law et membre du comité de rédaction de la revue juridique polynésienne. Il est également l'un de nos distingués gradués ici à l'Université de Montréal, donc ça nous fait plaisir de le recevoir parmi nous encore une fois après quelques années.
Oui.
Donc, M. Costi,
merci.
La parole est à vous.
Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être de nouveau de retour ici à la faculté de droit. J'ai étudié il y a de cela bien quelques années, vous pouvez bien le voir. Et je voudrais tout d'abord remercier le Centre de recherche en droit public pour cette gentille invitation à vous adresser la parole. Vous devrez pardonner quelques-unes de mes expressions qui sont probablement des anglicismes, mais étant habitué à travailler, à évoluer dans un milieu anglophone, j'ai rarement l'occasion de pouvoir donner une conférence en français, mais j'espère que vous me pardonnerez ces quelques petites erreurs que je pourrais commettre. Également, je dois avouer que je suis arrivé il y a plus d'une semaine ici au Québec et mon épouse et moi avions été faire une semaine de vacances en Gaspésie. Et malgré cette belle vacance, nous sommes revenus hier et nous avons appris que le Congrès américain avait décidé d'agir sans attendre notre retour. Il a adopté une loi à la fin de la semaine dernière qui modifie jusqu'à un certain point plusieurs des remarques que je voulais faire cet après-midi, mais j'espère que je pourrai essayer de garder le corps principal de ma présentation et j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger, de discuter des derniers développements aux États-Unis, des développements que je jugerais un peu grave, mais c'est mon opinion. Alors, ce que je veux tout d'abord indiquer au tout début, c'est que naturellement, depuis le 11 septembre 2001, il y a eu une réaction partout dans le monde à ces événements, ces tragiques événements. Partout dans le monde, parce que même quand je prends le cas de la Nouvelle-Zélande, d'où je viens, nous avons adopté, c'était la première fois qu'une loi vraiment portant sur la répression du terrorisme était adoptée. Ça a pris ces événements de 2001 pour en accélérer l'adoption au niveau du Parlement. Ici même au Canada, le fameux projet de loi C-36 a été adopté, je crois, assez rapidement, juste après les événements du 11 septembre. Aux États-Unis, ça, naturellement, ces événements tragiques ont causé une redéfinition très importante de la politique étrangère des États-Unis, non seulement au niveau juridique, mais au niveau politique. Une politique étrangère, mais c'est également la politique interne. Et il y a, je crois, un certain nombre de faits politiques et juridiques qu'il est important de se rappeler et que nous discuterons cet après-midi dans cette courte allocution. Tout d'abord, je crois, il faut bien rappeler cette résolution du 18 septembre 2001, cette résolution qui autorisait le président à utiliser ou à donner ordre d'usage de la force armée contre des présumés terroristes. Également un autre fait politique très important, et c'était lors de son allocution le 20 septembre devant le Congrès et le peuple américain, dans lequel cette allocution, il a invoqué pour la première fois cette expression guerre contre le terrorisme, qui est une expression selon très générale, vague, et qui n'a selon moi aucune portée juridique, mais c'est mon opinion. Puis le 13 novembre 2001, cette ordonnance militaire qui permettait non seulement la détention d'individus de présumés terroristes à Guantanamo Bay, mais la possibilité d'un procès par commission militaire, donc par une juridiction d'exception, en accord avec cette ordonnance militaire, et nous y reviendrons. D'autres faits importants au niveau américain étaient cette ordonnance sur les commissions militaires, cette première ordonnance du 21 mars 2002, qui mettait sur pied certaines procédures par lesquelles ces commissions militaires étaient censées procéder, avec certaines restrictions très douteuses, je crois, sur la protection des garanties des libertés fondamentales de présumés accusés. Puis, si on regarde Salim Ahmed Hamdan, ce qui sera le sujet de notre discussion en bonne partie, cet ancien chauffeur et garde du corps de Osama Bin Laden a été considéré, lui qui était détenu à Guantanamo Bay depuis presque 2 ans, lorsqu'on a bien clairement indiqué qu'il était sujet à procès devant une commission militaire, même si des actes d'accusation ne furent portés contre lui que le 7 juillet 2004. Donc on parle presque, pas loin de 2 ans et demi, 3 ans après son incarcération à Guantanamo Bay. Et plus récemment, deux lois très importantes, la loi du 30 décembre 2005, la loi sur le traitement des détenus, qui visait en bonne partie, en réalité, à limiter le droit de recours d'individus qui étaient détenus à Guantanamo Bay, limiter le recours au bref d'habeas corpus, en le limitant simplement à la juridiction d'appel du district de Columbia. Et plus récemment, la semaine dernière, l'adoption de la loi sur les commissions militaires et le traitement des détenus, dont nous reviendrons plus à même au cours de cette conférence. Ce que j'aimerais faire vraiment dans cette conférence, c'est vraiment premièrement de discuter des décisions et des jugements de la Cour suprême des États-Unis. Vous êtes, je crois, d'après ce que votre professeur m'a dit, bien au courant de ces décisions. On va revenir un peu, puisqu'on parle un peu d'une trilogie américaine, nous allons revenir très brièvement sur les arrêts Hamdi, l'arrêt Razoul et l'arrêt Hamdan, récemment décidé par la Cour suprême cet été. Puis, j'aimerais parler aussi des implications de ces jugements pour les détenus de Guantanamo Bay, également de la réaction, de la conduite de l'administration Bush, comment ils ont réagi à ces décisions de la Cour suprême. Nous allons parler un peu de la légitimité du processus judiciaire devant ces commissions militaires. Et également, j'aimerais aborder avec vous les obligations des États-Unis. Quelles sont les obligations que les États-Unis ont au point de vue du droit international, et spécialement du droit international humanitaire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quelles sont leurs obligations? Et en réalité, est-ce que les États-Unis violent ou non leurs obligations en matière de droit international? Mais au préalable, j'aimerais faire quelques remarques pour nous mettre vraiment dans le bain, si je puis dire. Premièrement, il est très important, spécialement lorsqu'on traite d'un conflit armé, hein, on ne va pas en ce moment discuter si c'est une guerre, la guerre contre le terrorisme est vraiment un conflit armé, mais si on parle vraiment de conflit, c'est très important de savoir quelle est la nature du conflit. Parce que la nature du conflit va avoir un impact important, ça va aider à déterminer le régime qui est applicable aux gens qui sont concernés. Les gens, les acteurs de ce conflit. Naturellement, au niveau de l'Afghanistan, et spécialement après la campagne de bombardement aérien des États-Unis, et puis l'intervention par des forces armées, non seulement américaines, mais un certain nombre de pays, hein, incluant le Canada, le conflit en Afghanistan, certainement en partie, est un conflit armé international. Et surtout, certainement, ce conflit international armé au niveau des relations entre les États-Unis et le Taliban, et ça aura un impact sur les obligations que les États-Unis ont ou auraient vis-à-vis des détenus à Guantanamo Bay qui ont été arrêtés et transférés à Guantanamo Bay. Également, il y avait certainement un genre de conflit entre les États-Unis et Al-Qaïda en Afghanistan. Est-ce un conflit armé non international? Nous y reviendrons en quelques minutes. Et en général, cette idée de guerre contre le terrorisme, quel régime s'y applique? Eh bien, on peut tout de même dire que quel que soit ce conflit, certainement au bout du compte, même si on n'en discutera pas aujourd'hui, il y a certaines libertés fondamentales et tout conflit certainement régit en bonne partie ou en partie du moins par les droits de l'homme. Le droit international des droits de l'homme. Mais donc, quand on regarde le conflit en Afghanistan, c'est très intéressant de noter que l'administration américaine, dès le 7 février 2002, avait bel et bien indiqué que les conventions de Genève étaient applicables aux membres du Taliban qui avaient été arrêtés ou détenus en Afghanistan, alors que les conventions de Genève ne s'appliquaient pas à Al-Qaïda. Pourquoi? Parce qu'Al-Qaïda, ce n'était pas un État. C'était un groupe qui n'était pas étatique. Mais dans les deux cas, ce qui est très intéressant, c'est que l'administration américaine avait refusé, en réalité, d'appliquer aux talibans, ainsi qu'aux membres de Al-Qaïda, le statut de prisonniers de guerre. Pourquoi? Parce qu'ils les considéraient comme des ennemis, des combattants illégaux. Un terme auquel je vais revenir dans quelques secondes. Mais en réalité, la mission américaine nous assurait que tous seraient traités de façon humaine, ou humainement, si je puis dire. Maintenant, parlons du conflit armé international. Il y a deux catégories d'individus dans un conflit armé international et deux régimes qui s'appliquent. Pour parler en termes très simples, tout d'abord, il y a les combattants, membres des forces armées régulières, ainsi que, selon l'article 4 de la troisième convention de Genève sur le traitement des prisonniers, certains groupes de gens, des milices, qui peuvent être reconnus comme étant, comme par des symboles, par leurs gestes, par leur tenue, et on peut le reconnaître comme étant un genre de milice armée. Ceux-ci, ces gens sont des combattants, c'est leur rôle, en fait, de se battre. Donc, en réalité, dès qu'ils sont détenus, dès qu'ils sont arrêtés par les forces ennemies, ces gens doivent être protégés. Donc, on peut certainement les enlever du théâtre d'opérations, mais ces gens ne peuvent pas être, en réalité, ne peuvent pas être jugés pour les actes qu'ils ont commis en tant que membres des forces armées, à moins qu'ils aient commis des crimes de guerre, ou lorsqu'ils étaient détenus, qu'ils ont commis certains crimes. Alors, pendant le temps que durent les hostilités, ces gens peuvent être en fait détenus, doivent être jugés à certains respects de leur liberté fondamentale, et puis lorsque le conflit se termine, l'article 118 de la troisième convention de Genève indique clairement qu'ils doivent être rapatriés vers le pays d'où ils ont été, où ils avaient été, doivent être simplement répatriés ou alors libérés par l'ennemi. Le deuxième régime s'applique aux personnes civiles, les civils protégés, ces gens qui sont protégés par la 4e Convention de Genève. 4e Convention de Genève sur le traitement des personnes civiles en temps de guerre, en fait, leur donne une protection qui est complète. En notant qu'ils ne prennent pas les armes, en notant qu'ils ne commettent pas de crimes, ces gens sont protégés. La 4e Convention, par contre, ne protège pas des gens comme le American Taliban, John Lynn, puisqu'il était un ressortissant de l'État occupant. Mais dans ce cas-là, il avait droit, selon le protocole additionnel numéro 1 de 1977, il avait droit à être traité de façon humaine. Mais si on en revient donc aux personnes civiles, ils peuvent être détenus, internés, mais ils ne peuvent généralement pas être déportés. Donc ils ne peuvent pas être transférés, par exemple, d'Afghanistan vers Guantanamo Bay, à moins qu'il y ait des raisons vraiment impérieuses. Mais quand on regarde les commentaires de des conventions de Genève, et c'est probablement que leur transfert vers Guantanamo Bay en masse ou même individuel par la contrainte n'était certainement pas quelque chose permis par les conventions de Genève. L'administration Bush, de façon très intéressante, nous a fait connaître une troisième catégorie, des combattants illégaux. Ces gens qui sont donc en fait les membres du Taliban, puisqu'ils auraient commis certaines atrocités, et les membres de Al-Qaïda. Ces combattants illégaux, en fait, ils se trouvaient dans une zone, un no man's land, où ils n'étaient pas protégés par les conventions de Genève. Leur seul droit était d'être traités humainement. En réalité, cette approche n'est pas vraiment valable lorsqu'on regarde les conventions de Genève et quand on regarde le commentaire de Jean Pictet, qui avait publié en 1958, il est fort clair, lors des négociations menant aux conventions de Genève, que personne ne pouvait tomber entre les mailles du filet. Tout le monde avait droit d'être protégé. Si quelqu'un ne tombait pas sous le coup de la protection de la Convention de Genève numéro 3, et si personne tombait sous le coup de la Convention de Genève numéro 4, c'est le principe général. Donc en fait, cette interprétation par l'administration américaine à l'époque, vers 2002-2003, est une interprétation qui est certainement soumise à de sérieuses questions. Mais en parlant aussi, et certainement le conflit, selon mon point de vue, le conflit entre le Taliban, qui était le gouvernement de facto, de l'Afghanistan et les États-Unis étaient à l'époque un conflit armé international et dont les conventions de Genève s'appliquaient. Pour ce qui est de Al-Qaïda, je serais d'accord avec l'idée que c'était un conflit armé non international. Il n'y avait pas de statut de prisonnier de guerre et lorsqu'il y a un conflit armé non international, en réalité, tout ce qui protège les individus, c'est cet article 3. L'article 3 qui est commun aux quatre conventions de Genève, qui est en fait toute beauté, un mini-traité sur les droits de la personne qui en fait parle du traitement que l'on peut donner aux détenus. Lorsqu'on a le traitement donné aux détenus, le genre de procès, le genre de mesures peuvent être prises contre les gens qui sont détenus. Mais et cet article 3 commun aux quatre conventions de Genève, que l'arrêt Hamdan va nous rappeler de l'importance, avait été à l'époque un peu mis de côté par l'administration Bush. Et c'est très important donc de se rappeler, donc, si c'est un conflit international armé, les conventions de Genève, ainsi que le protocole additionnel numéro 1, si c'est un conflit armé non international, c'est donc l'article 3 commun aux conventions de Genève, et pour certains pays également, et ainsi de façon coutumière, certains droits, certaines dispositions dans le deuxième protocole additionnel de 1977. Donc, ça, au préalable, quelques points que je voulais amener avant de commencer cette discussion sur cette trilogie américaine. Donc, j'espérais, lorsque j'ai préparé cette conférence, j'espérais que l'arrêt Hamdan aurait été le dernier chapitre. Il aurait clos un peu cette trilogie, comme la trilogie du Seigneur des Anneaux. On aurait été content, il y aurait eu une belle fin, tout le monde aurait été content. Mais, il y a trois causes principales que j'aimerais brièvement discuter avec vous. Trois causes principales qui ont été examinées par la Cour suprême des États-Unis au sujet de la conduite des autorités américaines en regard des conditions de détention des prisonniers de Guantanamo Bay. Deux décisions le 28 juin 2004, Razul et Hamdi, et puis plus récemment Hamdan contre Rumsfeld. Pour vraiment résumer de façon brève l'arrêt Razul contre Bush, dont certains d'entre vous ont étudié cette cause très récemment, l'arrêt Razul contre Bush est intéressant, parce que Razul, ainsi que 15 autres individus, avaient décidé de contester la légalité de leurs conditions de détention à Guantanamo Bay. Ces gens étaient des étrangers, ils n'étaient pas américains. Ils incluaient David Hicks, un Australien. Ça incluait également un certain nombre de ressortissants du Koweït, je crois, ainsi que M. Razul, un ressortissant britannique. L'arrêt Razul contre Bush est intéressant puisqu'il donne vraiment le droit aux prisonniers de contester l'égalité de leur détention sous juridiction américaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que, du moins une majorité des juges de la Cour suprême ont bel et bien vu la réalité de façon pratique. Guantanamo Bay est sous juridiction américaine. Ça ne leur appartient pas, mais la réalité, c'est que c'est sous juridiction américaine. Ça l'a été depuis un certain temps et ce sera probablement encore pour de nombreuses décennies. Et donc, puisqu'ils étaient sous juridiction américaine, et ils pouvaient donc contester la légalité de leur détention. Ce qui n'est pas très clair dans l'arrêt, c'est quel genre de procédure est mise à leur disposition pour ce faire. Est-ce que c'est vraiment le bref de habeas corpus ou est-ce quelque chose qui soit un peu moins clair? Est-ce que c'est suffisant qu'il y ait une audience devant une commission militaire? Ce n'était pas très clair. En fait, il y a de la part de la majorité de la Cour suprême une tentative de retenue judiciaire, je crois, dans cet arrêt. Et de façon certaine, dans les faits, cet arrêt n'empêche pas la détention illimitée de gens qui sont détenus à Guantanamo Bay. Le deuxième arrêt important, Hamdi contre Rumsfeld, qui vit quand même une majorité assez forte de la Cour suprême, 8 juges contre 1, reconnaît le droit d'un citoyen américain qui était arrêté sur un champ de bataille à l'étranger à être entendu par une autorité impartiale avant sa détention aux États-Unis. Ce qui est très intéressant, c'est que cette décision, bien que ce soit, un petit triomphe pour les droits et libertés, le fait que cette décision de détenir de façon illimitée un individu comme Hamdi ne peut être le résultat que d'une analyse qui tient compte non seulement des intérêts de l'État, la sécurité de l'État, mais également des intérêts de toutes les parties concernant, incluant l'individu qui est détenu. Et ça, c'est un point qui est très important. Par contre, l'arrêt Hamdi n'empêche pas l'administration Bush, en réalité, de désigner de tels individus comme des ennemis combattants. Ce qui a naturellement des répercussions très néfastes pour ce genre d'individus. L'impact de ces deux arrêts est plus important à l'époque, puisque même avant que la Cour suprême ne rende jugement, l'administration Bush avait déjà commencé à parler d'un plan de révision annuel du statut des prisonniers de Guantanamo Bay. Ça, c'était avant donc le 28 juin 2004. Puis, dès le 7 juin 2004, donc quelques jours après la décision de la Cour, il y a eu la création d'un tribunal de révision du statut de combattant. Important pour qu'on voulait en réalité voir si ces gens détenus étaient représentés encore un danger ou en fait, est-ce qu'on pouvait encore en tirer quelques informations importantes ou pas. Sinon, on devrait les libérer. De façon intéressante, Hamdi fut libéré quelques mois après. En acceptant de renoncer à sa citoyenneté américaine, il lui fut permis de partir et de retourner en Arabie Saoudite. Razul, de façon intéressante, fut renvoyé au Royaume-Uni et finalement libéré. Il n'y a pas eu d'acte d'accusation porté contre lui au Royaume-Uni. Mais je veux dire que tous ces deux arrêts sont très importants, mais ils ne disent rien sur la légalité des commissions militaires. Et c'est là que vient l'importance de l'arrêt Hamdan contre Rumsfeld. Hamdan est parmi ses premiers individus à être jugé devant une commission militaire. La Cour suprême n'a rien dit sur ces commissions militaires, et alors l'administration Bush a continué le processus. Et dans le cas de Hamdan, comme j'avais dit auparavant, le chauffeur de Osama Bin Laden, un garde du corps, il aurait, je crois, selon les informations américaines, transporté également des armes, des explosifs vers des gens qui, après ça, auraient commis des actes terroristes. Il était principalement accusé de conspiration pour commettre des crimes de guerre. C'était les principaux crimes retenus contre lui. Cette première cause qui force la Cour suprême à examiner la validité des commissions militaires mises sur pied par l'administration Bush est très intéressante. Ce que je compte peut-être faire, c'est de parler tout d'abord de l'arrêt, des différentes opinions très brièvement dans l'arrêt Hamdan, puis peut-être d'évoquer ce que cette loi votée la semaine dernière a fait pour notre discussion aujourd'hui, et puis nous reviendrons à une analyse un peu plus globale, à voir un peu encore les répercussions sur la conduite de l'administration Bush de cette décision de la Cour suprême des États-Unis. Donc Hamdan, et beaucoup d'entre vous le seront bien au courant, a immédiatement, lorsque ces procès se sont mis en branle, a décidé de contester la légalité de son procès devant ses commissions. Et il y avait en fait trois points sur lesquels il a décidé de baser son de fonder son action, et c'était premièrement que ses règles et procédures de ses tribunaux, ses commissions militaires n'étaient pas conformes au code de justice militaire américain, le Uniform Code of Military Justice. Le second point, c'était qu'en réalité, cette mise en place, cette création de commissions militaires outrepassait au droit qu'avait le président des États-Unis selon la Constitution. Et le troisième point, c'était en réalité qu'il y avait dans ces procédures de ces commissions militaires, en fait, le viol son droit à être traité comme prisonnier de guerre selon les conventions de Genève et être traité selon les conventions de Genève en général, et également de bénéficier d'un statut de prisonnier de guerre jusqu'à ce qu'il y ait une autorité compétente, une juridiction compétente qui détermine s'il a droit à être prisonnier de guerre ou pas. Donc ça, c'était les trois points que Hamdan avait portés devant les tribunaux. Devant le District Court, en première instance, il obtint gain de cause, puisque la Cour supérieure, en première instance, avait dit que le président n'a pas de pouvoir statutaire ou un pouvoir inhérent pour créer des tribunaux d'exception. C'était bien clair. Ça devait venir d'une loi existante. Et il n'y avait rien dans les statuts qui prévoyaient cela. Deuxièmement, le District Court a bel et bien dit que les conventions de Genève s'appliquent au conflit en Afghanistan, au conflit même avec Al-Qaïda, ce qui est qui contredit carrément ce que l'administration américaine a toujours soutenu jusque-là. Donc, c'est une décision très importante. Et puis, Hamdan avait le droit à être reconnu prisonnier de guerre, POW, jusqu'à ce qu'une cour compétente détermine son statut. Ça, c'était en première instance. Naturellement, le gouvernement a porté cette cause en appel, et la Cour d'appel, incluant à l'époque le président actuel de la Cour suprême, John Roberts, avait donc renversé la décision du District Court en décidant que les conventions de Genève ne confèrent pas aux individus des droits qui peuvent être directement invoqués devant les tribunaux. Deuxièmement, que les commissions militaires ont été approuvées par le Congrès. Et troisièmement, que les conventions de Genève ne s'appliquent pas au conflit avec Al-Qaïda. En réalité, c'est cette notion que le conflit avec Al-Qaïda n'est pas un conflit international, ce n'est pas un conflit non international, mais c'est quelque chose entre les deux, une zone grise, un conflit qui est transnational, parce que c'est entre un État ou des États et une entité qui n'est pas un pays. Donc c'est quelque chose un peu une classe à part. Après ce jugement en cour d'appel, la Cour suprême a été saisie de la cause et a renversé la décision de la Cour d'appel. Et il y a en fait quatre points principaux traités par la Cour suprême. C'est premièrement la compétence qu'a la Cour suprême à entendre l'appel, puisque vous vous souviendrez qu'au début, j'ai mentionné cette loi du 30 décembre 2005 sur le traitement des détenus, qui, semblait vraiment limité à la juridiction de la Cour d'appel du District of Columbia toute possibilité d'entendre des applications pour un bref d'habeas corpus. Ça semblait limité à la juridiction de la Cour d'appel du District de Columbia. Et donc la Cour suprême a dû adresser cette question, est-ce qu'ils avaient la compétence pour entendre l'appel? Le deuxième point, c'était si, quelle était la compétence du président pour mettre sur pied les commissions militaires? Y avait-il pouvoir au niveau du président? Et également, c'était la conformité de ces commissions au code de justice militaire, et spécialement parce que ces commissions militaires sont différentes, non seulement des cours traditionnels, donc district court, mais également des tribunaux, les cours martiales, les cours martiales. Donc il fallait voir si c'était quand même en conformité avec ce code de justice militaire. Et finalement, la conformité des commissions aux conventions de Genève et au droit international humanitaire. Brièvement, pour vraiment résumer ce que la Cour suprême avait décidé, du moins en majorité, il était bien clair que au niveau de la juridiction, même si le Congrès avait passé cette loi à la fin de 2005, cette loi, selon la majorité de la Cour suprême, ne pouvait s'appliquer à des causes qui étaient pendantes devant les tribunaux. Donc Hamdan avait été décidé en première instance et en cours d'appel avant, à la fin de 2005. Même si cette loi était intervenue entre-temps, une majorité de la Cour suprême ont refusé de dire qu'il ne pouvait pas y avoir d'appel à la Cour suprême. Ils ont préféré utiliser des méthodes d'interprétation des lois plutôt que de commencer à discuter de possibilités qu'il y ait une suspension du bref d'habeas corpus ou encore d'une possibilité que la Cour suprême se voit privée de certains de ses pouvoirs. Le deuxième argument sur la possibilité sur la question la compétence du président à mettre sur pied les commissions militaires, une majorité ne voyait aucunement dans les lois existantes une possibilité de donner ce pouvoir, qui est en fait un pouvoir assez exceptionnel au président, d'en venir à pouvoir mettre sur pied des commissions qui dévient de façon importante de la justice traditionnelle. Et donc, nous y reviendrons sur ce point un peu plus en détail dans quelques minutes. Pour ce qui est des commissions et de leur conformité au code de justice militaire, ce qui est très intéressant dans la décision de la majorité de la Cour suprême, c'est d'intervenir à faire une distinction selon cet article. C'est l'article 36 du code de justice militaire qui est très important. Cet article 36 semble indiquer et semble accepter cette idée que des tribunaux autres des tribunaux ordinaires puissent entendre des causes. Donc, il est fort possible que des cours martiales puissent entendre ce genre de causes, et même qu'il y ait des tribunaux d'exception, des commissions militaires, qui puissent entendre ces causes. Mais une majorité a bien indiqué que, alors qu'il semble y avoir une certaine discrétion au niveau des autorités en décidant si ça serait devant le district court ou des tribunaux comme les cours martiales, là, la majorité de la Cour suprême a indiqué de façon très claire qu'il fallait que le président fasse en fait un argument, indique par un argument très classique, un important argument, pourquoi il était nécessaire de déroger aux règles existantes, soit dans les tribunaux ordinaires ou dans les cours martiales, pour juger ces individus. Donc en réalité, la Cour suprême, bien que reconnaissant cette idée de commission militaire, voulait que le président fasse un argument, indique pourquoi c'est les règles ordinaires ou les règles des tribunaux, des cours martiales, n'étaient pas, ce qu'ils ont dit à la Cour, n'étaient pas practicable dans les circonstances. Donc ça, c'était quand même une interprétation assez intéressante de la part de la majorité. Finalement, la majorité, encore une fois, a décidé que ces commissions dérogeaient en fait aux conventions de Genève, à l'article 3 de la Convention de Genève, qui indique qu'il y a un certain traitement auquel même des présumés terroristes ont droit. Et que c'est cette protection des droits, cette protection fondamentale pour les individus qui allait être jugé devant ces commissions militaires, cette protection n'était pas suffisante. Et puisqu'il pourrait être exclu de certaines procédures, certains éléments de preuve n'allaient pas leur être communiqués. Et donc, une majorité a donc vu que ces commissions militaires n'incorporaient pas le droit international humanitaire qui se trouve à travers les conventions de Genève. Et l'article 21 de la du Code de justice militaire le dit clairement, que ces juridictions, ces tribunaux, doivent respecter le droit international des conflits, qui inclut donc le droit international humanitaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Quatre membres de cette majorité sont même allés plus loin, indiquant de façon juste et raisonnée, je crois que n'importe quel auteur en droit international serait bien d'accord là-dessus, il n'existe pas en droit international un concept de conspiration pour commettre des crimes de guerre. Il y a en droit international humanitaire, en droit international de conflit, certains crimes de conspiration, par exemple pour faire une guerre d'agression, pour entreprendre une guerre d'agression, mais il n'y a pas un concept général de conspiration pour commettre des crimes de guerre. Et pour quatre de ces juges de la majorité, donc en réalité, M. Hamdan avait été inculpé de crimes qui n'existaient pas, et donc certainement en violation des conventions de Genève. Voilà donc ce que la Cour avait indiqué. Naturellement, ce serait... au bout du compte, de cette décision ressort et c'est ce que la Cour a certainement indiqué de façon claire et précise, que les commissions militaires pourraient toutefois être instaurées par une loi du Congrès. Par une loi du Congrès qui, en fait, adresserait les lacunes de la loi présente et des décisions présentes de l'administration. Jusque-là, tout va bien. J'aurais été content puisque ma présentation aurait maintenant permis de simplement discuter à quel point la Cour suprême ou une majorité de la Cour suprême avait non seulement agi en conformité avec le droit international, mais avait démontré, je crois, au monde entier l'importance des garanties fondamentales devant les tribunaux américains. Mais voilà, je pars en Gaspésie pour une semaine, je reviens une semaine plus tard et le Congrès, entre-temps, a décidé a décidé d'en venir à une nouvelle loi qui a été adoptée donc à la fin de la semaine dernière, une loi sur les commissions militaires et le traitement des détenus. C'est une loi qui, à mon avis, est une loi dangereuse. Non seulement elle crée en réalité ces tribunaux militaires pour juger des ennemis combattants, elle est créée très clairement, elle fixe les techniques d'interrogatoire qui sont applicables aux ressortissants étrangers qui sont soupçonnés de terrorisme. Elle dépouille les détenus de Guantanamo Bay du droit à l'habeas corpus, sauf en certains cas très limités. Elle permet l'utilisation d'aveux qui ont été obtenus par certaines formes de coercition. Et elle donne au président, en fait, le pouvoir d'interpréter les conventions de Genève et de déterminer les techniques d'interrogatoire qui sont valables. C'est en fait, quand on y pense, plutôt dangereux. Tous ces pouvoirs qui sont donnés à l'administration seront cette loi. Votée par une large majorité au niveau du Sénat et assez vaste majorité également au niveau de la Chambre des représentants. À cela, il faut quand même dire, dans le même temps, il faut quand même bien dire que certaines formes d'interrogatoire sont maintenant interdites, dont le waterboarding, je ne sais pas comment on le traduirait en français, mais en fait le fait que l'individu se sent en train de noyer. Certaines autres techniques, comme je crois l'hypothermie, sont maintenant classées vraiment comme étant illégales, des pratiques illégales. Il y a également donc le droit qui est maintenant accordé aux accusés d'avoir accès, sinon aux documents classés retenus contre eux, au moins un résumé de ce qui a été dans ces documents classés qui ont été retenus contre eux. Il y a donc certains aspects positifs. Mais la réalité, c'est que en majeure partie, cette loi va donner des dents à cette pratique de l'administration d'essayer de juger et de vouloir porter cette guerre contre le terrorisme devant des commissions militaires et en fait de continuer à procéder à des interrogatoires douteux un peu partout dans le monde et aux États-Unis. Donc j'aimerais quand même maintenant en revenir à cette analyse à partir de cet arrêt. Hamdan, mais également, je vais en discuter tout en parlant de cette nouvelle loi adoptée. Nous allons essayer de vous faire une discussion en adressant tous ces points. Il y a quatre points que j'aimerais en fait aborder avec vous maintenant. Un, c'est certains aspects concernant les questions préliminaires et certaines questions de fond qui avaient été adressées par la Cour suprême. Le deuxième point, ce serait certaines implications pour les détenus et aussi pour l'autorité du président, non seulement de l'arrêt, mais également de cette nouvelle loi. La portée du jugement pour le droit international, non seulement l'application des conventions de Genève, mais également les implications pour les méthodes d'interrogatoire, et spécialement l'impact que ce jugement aurait sur la loi fédérale américaine sur les crimes de guerre. Pour vous parler brièvement de certains aspects procéduraux et de fond de cette cause, Hamdan était en fait une cause très difficile pour le requérant, pour ses avocats. C'est une cause qui était très difficile à gagner. Premièrement, il y avait beaucoup de questions qui auraient pu être interprétées par la Cour d'une façon à l'obliger à démontrer une certaine retenue judiciaire. Par exemple, ce Detainee Treatment Act, cette loi sur le traitement des détenus de 2005, aurait pu, simplement, la Cour suprême aurait pu décider, d'accord, il y a cette loi, ça nous enlève juridiction. Naturellement, la majorité a décidé que ce n'était pas le cas. Et ce qui a été très bien, c'est qu'ils ont vraiment essayé tout simplement d'utiliser des méthodes d'interprétation des lois pour en venir à décider qu'ils avaient toutefois juridiction. Ça démontre, je crois, au niveau du moins d'une majorité de la Cour suprême, une volonté de vouloir être impliqué dans un processus qui est important, non seulement juridiquement, politiquement, pour, je crois, l'image que les États-Unis ont. Et quand on rencontre parfois des juges américains à l'étranger, on se rend compte à quel point ils sont conscients de l'image de la justice américaine à l'étranger. Et ils veulent être certains qu'ils démontrent qu'il y a un respect pour les volontés fondamentales. Un autre point au niveau des questions préliminaires était que, et certainement certains juges de la minorité avaient bel et bien dit que pourquoi décider de cette cause à ce moment-ci, alors que la commission militaire venait tout juste de commencer les procédures. Pourquoi ne pas attendre qu'une décision ait eu lieu avant d'entendre cette cause. Et ce qui est très intéressant, c'est que la majorité, en portant son avis sur une ancienne, une vieille cause, Ex parte Quirin, a bel et bien indiqué l'importance qu'on adresse certaines questions d'une façon expéditive, au tout début du processus. Non seulement parce que parfois, certaines des questions qui sont posées ont une importance pour le public, une importance publique. Également, il y a le devoir de la Cour de protéger les sauvegardes constitutionnelles et les concepts de liberté civile. Et également, l'intérêt du public dans une décision sans délai. Et donc, la Cour suprême, une majorité d'entre eux, ont vu que l'importance de décider immédiatement cette question importante au niveau de la légitimité des commissions militaires. Au niveau du fond, est-ce qu'il y avait vraiment une autorisation pour le président à adopter ou à mettre sur pied ces commissions militaires? Si on regarde la résolution du 18 septembre 2001, l'autorisation qui permet l'usage de la force armée, ça n'indique pas un droit à créer un tribunal. Ça indique, oui, que le président peut donner ordre à utiliser la force, c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan dès le 7 octobre 2001, mais ça ne va pas plus loin. Également, il n'y a rien dans le code de justice militaire qui permet la mise sur pied de commission militaire, sauf si ça répond à certains critères très précis dans la loi. En réalité, ce qui est très important, c'est que le code de justice militaire est la législation la plus importante. Si ces commissions militaires ne respectent pas ce code de justice militaire, ces commissions sont illégales, elles ne sont pas en vertu de la loi. Et en réalité, ce qui est très intéressant également, c'est je dirais cette idée que une majorité du moins de la Cour suprême a fait vraiment ses devoirs, si je puis dire, en mentionnant que ces conventions de Genève, les conventions de Genève, font partie du droit coutumier, droit international coutumier, donc le droit international coutumier des conflits armés. Et ce qui est marqué clairement à l'article 21, ce qui est dans, de ce code de justice militaire, et une majorité de la Cour a bel et bien indiqué. Et je crois que c'est très important au niveau du droit international, du droit international humanitaire, de voir les juges de la juridiction probablement la plus importante, de la juridiction nationale la plus importante au monde, certainement dans le contexte de la guerre contre le terrorisme, de voir une majorité de ces juges prendre au sérieux l'application du droit international. Pour ce qui est des applications pour les détenus et pour l'autorité du président, la véritable question, je crois, quand le président Bush, par ordonnance militaire le 13 novembre 2001, avait indiqué qu'il, non seulement les États-Unis pouvaient détenir des présumés terroristes à Guantanamo Bay, mais puis également les soumettre ou les juger devant des commissions militaires, qu'est-ce qui était vraiment derrière ça? Est-ce que c'était uniquement un devoir juridique que le président jugeait qu'il avait, ou était-ce une façon d'élargir ou d'augmenter son pouvoir, sa compétence? Et quand on regarde donc tout ce processus judiciaire dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, si je peux résumer de façon simple, on voit que le président agit en fait comme juge, comme jury. Le président définit les crimes, juge les gens et également exécute les décisions. C'est quand même une vaste compétence que le président s'arroge. Et quand on regarde les Federalist Papers, en fait, on voit les textes écrits par les pères de la Constitution américaine, je ne crois pas qu'ils voulaient que une des branches du gouvernement puisse s'arroger des pouvoirs quasi absolus. Ce n'était certainement pas ce que les pères de la Constitution américaine voulaient, et ce n'est certainement pas ce que, théoriquement, je crois, le Congrès aurait voulu. Mais quand on regarde maintenant cette loi qui a été adoptée la semaine prochaine, en réalité, le président maintenant a des pouvoirs très importants. Est-ce que ces pouvoirs sont vraiment nécessaires? Voilà ma question. Quand on regarde combien de gens seront jugés devant ces commissions militaires, combien de gens? Mais lui-même a indiqué, je crois, 10 à 14 personnes, les gens qui étaient vraiment les plus impliqués dans les actes dans la planification des actes du 11 septembre 2001. Ce ne sera pas les quelques 400 personnes ou plus qui restent à Guantanamo Bay. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une juridiction d'exception? Est-ce qu'on a vraiment besoin de donner au président des États-Unis des pouvoirs aussi absolus, aussi importants, alors que plusieurs juges de la Cour suprême, et si je prends le juge Stevens, dit clairement qu'il y a des cours martiales qui ont certaines garanties bien clairement indiquées dans leur statut qui peuvent être utilisées. Et même l'administration s'est vantée au cours des dernières années de dire que le système des cours américaines, il est là, il est précis, il est très bon. Alors, c'est vraiment une question, est-ce que c'était nécessaire d'en venir à utiliser des juridictions d'exception? Oui, mais seulement si on veut pouvoir utiliser, je crois, des preuves qui ont été obtenues de façon un peu frauduleuse ou de façon un peu par la force, par la contrainte. Et c'est ça qui est en jeu, et c'est ça en réalité que permet cette loi adoptée la semaine dernière. Puisque le président non seulement peut maintenant décider de l'interprétation des conventions de Genève, le président peut également déterminer quelles techniques d'interrogatoire seront permises. C'est quand même dangereux selon moi. Je vous laisse seul juge là-dessus, mais c'est quand même un point très important, je crois qu'il faut garder à l'esprit. Les applications un peu plus at large, si je puis dire, de cette décision de Hamdan pour le droit international, premièrement pour l'article 3 commun aux conventions de Genève. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est quand même très intéressant que une majorité de la Cour a indiqué que cet article 3 est applicable au conflit contre Al-Qaïda et que ces commissions militaires violaient certains aspects de cet article 3. C'est quand même très intéressant, car ça contredit ce que l'administration Bush a essayé d'argumenter au cours des années. Et également, je crois que ce que ça indique, c'est à quel point une majorité des juges aînés des États-Unis voient les dangers qu'ils voient dans ces commissions militaires. Cette nouvelle loi adoptée la semaine dernière, en réalité, va permettre, jusqu'à un certain point, cette possible violation de l'article 3 des conventions de Genève. Et c'est ça aussi, c'est encore très dangereux, parce que ça place les États-Unis au danger que les États-Unis pourraient être en train de violer leurs obligations en droit international. Que les conventions de Genève soient exécutoires ou pas en droit américain. C'est vraiment un autre aspect qui est très dangereux avec cette loi adoptée la semaine dernière. Au niveau, je crois que par contre, des techniques, et peut-être aussi pour revenir à un autre point sur les conventions de Genève, traditionnellement, je crois que tout, il est très clair, et cela vient de l'arrêt Marbury contre Madison, un des premiers arrêts clés de la Cour suprême des États-Unis, il était bien clair que la Cour suprême est en fait l'autorité la plus importante pour interpréter la Constitution des États-Unis. On sait tous cela. Mais, qu'en est-il des traités qui ont force de loi aux États-Unis? Les traités qui sont « the law of the land ». Bien, très intéressant que le jour avant Hamdan, dans une décision Sanchez-Lamas, qui traitait de questions de droit consulaire, donc c'est selon la Convention sur les relations consulaires de 1963, la Cour avait indiqué, si on lit ce jugement, on pourrait l'interpréter comme indiquant que la Cour suprême est également l'autorité dont l'interprétation fait foi des traités qui sont applicables aux États-Unis. Si c'est le cas, les conventions de Genève sont donc un de ces traités. Si les conventions de Genève sont en force aux États-Unis, elles sont en force aux États-Unis, à ce moment-là, est-ce que le président peut simplement décider de les interpréter différemment? Ou est-ce que cela n'est-il pas une intrusion sur les pouvoirs de la Cour suprême des États-Unis? Naturellement, vous allez tous me dire, mais il n'y a pas de problème. Parce que le Congrès, en passant cette loi, a tout simplement dit, a simplement donné ce pouvoir au président américain. Le Congrès a le droit, en réalité, au niveau du droit national, de répudier les conventions de Genève, s'ils le veulent. Ils ont le droit de le faire. Mais il faut qu'il y ait un problème majeur. Premièrement, c'est au niveau du droit international. Oui, un pays peut violer le droit international au niveau de sa législation interne, mais cela n'empêche pas que l'État sera tenu responsable en droit international. C'est une première chose. Et deuxièmement, je crois que ce sera une question qui devra peut-être être adressée par la Cour suprême dans un proche avenir. Est-ce que le président peut donc décider d'interpréter les conventions qui sont applicables aux États-Unis, de les interpréter comme il le veut, et donc de façon à contredire une interprétation par la Cour suprême qui a bel et bien dit que ces conventions de Genève étaient donc applicables dans le cas de Al-Qaïda. Par contre, tout n'est pas noir et sombre, puisque au moins au niveau des techniques d'interrogatoire, il y a certains aspects positifs dans cette loi. Parce que, en réalité, et également, la décision nous dit que l'article 3 est applicable, donc ce mini-traité sur les droits de l'homme va donc assurer que non seulement les prisonniers terroristes détenus à Guantanamo Bay ont droit à une protection contre la torture, mais également contre des traitements qui sont cruels, dégradants, inhumains. Donc ça, c'est très important. Mais au niveau de la loi fédérale sur les crimes de guerre, certainement avant un amendement qui avait été passé en 2005 grâce au sénateur John McCain, Il s'était bien clair que la torture des interrogateurs était liée par les standards de l'article 3 et de la Convention de Genève, mais également de la Convention contre la torture, cette idée qu'ils ne peuvent pas torturer pour obtenir des informations. Mais on ne disait rien devant du traitement dégradant et inhumain. Cet amendement par le sénateur McCain a indiqué qu'il était maintenant illégal, défendu, de procéder à des techniques d'interrogatoire qui pourraient être dégradante et humiliante pour les individus. Ce que fait cette nouvelle loi, en réalité, c'est d'aller plus loin en incluant dans la loi sur les crimes de guerre tout traitement inhumain et dégradant. Et donc, ça ramène un peu les États-Unis dans la grande famille internationale. Donc, en cela, il y a certains aspects positifs dans cette décision de la Cour, cette loi du Congrès américain. Maintenant, en guise de conclusion, je voudrais simplement me permettre de vous faire part de quelques réflexions sur trois points. Un, les suites de l'arrêt Hamdan et de cette nouvelle loi. Quelles seront les suites? Deuxièmement, le besoin. Est-ce qu'il y a besoin, en réalité, d'une nouvelle convention, mettons une nouvelle convention de Genève ou un protocole additionnel sur la guerre contre le terrorisme? Et troisièmement, quels sont les risques qui sont liés aux limitations des libertés pour des fins de sécurité, autrement dit, la possibilité d'arguments qui sont fallacieux pour protéger la sécurité de l'État au détriment de la liberté et sécurité des individus. D'abord, sur les suites de l'arrêt Hamdan, eh bien, si la conférence avait eu lieu mardi dernier, peut-être j'aurais pu dire que l'arrêt Hamdan, selon moi, mais clairement le dernier chapitre dans cette conduite effrénée de l'administration américaine pour essayer de juger à tout prix certains présumés terroristes. Ce que fait cette nouvelle loi adoptée, peut-être, c'est de redorer le blason de la présidence. Mais il est très intéressant que plusieurs sénateurs républicains qui ont voté en fait pour cette loi ont clairement dit que cette loi sera probablement contestée et certaines de ses dispositions, dont le droit à l'habeas corpus qui sera certainement considéré peut-être inconstitutionnel ou invalide par la Cour suprême. Alors peut-être une des questions, c'est qu'en fait l'administration Bush, si on regarde l'échéancier, George Bush sera président jusqu'au 21 janvier, je crois, 2009. Peut-être qu'en réalité, tout ce qu'il veut, c'est de s'assurer que ce ne soit pas lui qui ait à démêler toutes ces histoires. Dans à peu près deux ans, il ne sera plus en charge. Donc en réalité, cette loi sera contestée, ça ira devant les tribunaux, peut-être le Congrès à nouveau interviendra. Qui sait? De toute façon, il peut s'en foutre, si je peux m'exprimer ainsi, après 2008. Ce ne sera pas lui qui sera président. Les suites de l'arrêt Hamdan étaient positives, je crois, pour le droit international. Cette loi, selon moi, remet en question les libertés fondamentales et c'est un peu dangereux. Y a-t-il besoin d'une nouvelle convention sur la guerre contre le terrorisme? Je crois qu'il est très difficile déjà avec les conventions de Genève actuelles de les faire respecter. Quand les deux protocoles additionnels ont été adoptés en 1977, plusieurs pays, dont les États-Unis, ne les ont pas ratifiés. Je crois qu'il est beaucoup plus important d'essayer d'utiliser le droit international existant pour régler des questions qui sont en fait très traditionnelles. La guerre contre le terrorisme est peut-être un phénomène social. Ce n'est pas un phénomène juridique, purement et simplement. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle convention. On ne doit pas réinventer la roue, réinventer le droit international, réinventer les Nations Unies. Il faut simplement rendre les institutions internationales plus efficaces et rendre peut-être le droit international, voir si ces dispositions sont encore valides, mais il n'y a pas besoin d'une nouvelle convention, puisque de toute façon, il y aura toujours de l'opposition. Finalement, les risques liés aux limitations des libertés pour des fins de sécurité. Je dirais simplement qu'il y a trois dangers. Premièrement, je crois que le déroulement de toutes ces procédures à Guantanamo Bay montre en fait qu'il y a une présomption de culpabilité contre des présumés terroristes, alors qu'en réalité, un procès doit déterminer si quelqu'un est vraiment un terroriste et qu'il a commis des actes ou pas. C'est seulement très dangereux. Un autre point très dangereux, je crois, c'est cette importance donnée à cette idée du commandant en chef. Je crois que toute question de nécessité militaire doit être maintenue au minimum. En réalité, un président, oui, doit avoir beaucoup de pouvoir, doit pouvoir faire face à des crises, mais on ne doit jamais mettre en question des concepts fondamentaux de liberté, comme c'est dans le cas. La loi sur les commissions peut être considérée pour l'instant comme une victoire importante pour George Bush. Elle fait suite, en fait, montre que l'administration a fait ses devoirs face aux critiques de la Cour suprême, mais elle ouvre la porte à d'éventuels excès. Et selon moi, tôt ou tard, et probablement plus tôt que tard, la constitutionnalité et le respect des principes de droit international humanitaire devront être adressés par la Cour suprême des États-Unis. Et j'espère qu'elle montrera à nouveau l'importance du droit international aux États-Unis. Merci de votre attention.
Alors, j'aurais dû présenter mon ami Alberto. Ça avait bien indiqué à 5 heures la conférence et je comprends que ça a commencé à 4h30. Est-ce qu'il y a moyen de prendre quelques questions?
Si les gens ne sont pas endormis. Oui.
Et vous voyez que pour quelqu'un qui a passé une semaine en Gaspésie, il est quand même pas mal à jour et que c'est un Néo-Zélandais qui parle un excellent français, n'est-ce pas? Question pour le professeur Costi. S'il y a quelqu'un qui veut ouvrir. Oui, à l'arrière. Ah, allez-y.
Oui,
C'était Breyer, Sauter, Kennedy, Stevens et voilà. Mais Kennedy n'a pas partagé tous les éléments de la majorité. Il a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'adresser la question est-ce que le crime de conspiration pour commettre des crimes de guerre était bel et bien un crime ou pas. Et enfin, lui, il a voulu lui montrer une retenue judiciaire plus importante. Et c'était donc. Et en réalité, je crois que ce qui est important, c'est que dans ce cas-là, naturellement, le juge en chef n'a pas pris part au jugement, mais que je crois que si certains aspects de cette loi seraient à nouveau contestés devant les tribunaux, on parle tout de même peut-être d'une majorité 5-4. Donc je crois qu'il y a quand même espoir. Enfin, si on prend mon point de vue, naturellement.
Il y a une question en arrière.
Oui, dans le combat que mènent les États-Unis en Irak, on voit que malgré les difficultés d'enlisement, encore la semaine dernière, les personnages qui disaient que la moitié des gens étaient d'accord avec le maintien en position de Donald Rumsfeld versus une autre moitié qui a préféré son départ. Alors qu'il est clair que la guerre est beaucoup plus difficile que prévu. Ce que M. Bush présente comme combat au terrorisme. Je pense qu'un des grands fondements de la reconnaissance des citoyens et citoyennes envers la Cour suprême, c'est justement sa crédibilité auprès de la population américaine. Pensez-vous que s'il y avait d'autres actes terroristes aux États-Unis, peut-être que la population ne suivrait pas une prise de panique et donnerait peut-être un chèque en blanc? Déjà, on sent que. Malgré que M. Bush a été dénoncé à la veille des dernières élections, à bien des égards, un peu de relent de terrorisme, une alerte orange ou deux annoncées malgré qu'il n'y ait pas d'événement, on semble vouloir, même au Canada peut-être, donner beaucoup de place à ce qui n'est plus un combat contre un État-nation, mais un combat de nouveau genre.
Vous avez tout à fait raison ce que je dis aujourd'hui, naturellement, est bien dans un environnement très idéaliste, où il n'y aura pas d'autres attaques. S'il y avait d'autres attaques, ou même certaines alertes, naturellement, je ne serais pas cynique ici, et il n'y avait pas que certaines alertes sont peut-être causées par certains membres de l'administration même. Mais disons que je suis d'accord que, je crois que l'opinion américaine est un peu volatile. Je crois que, pour l'instant, du moins, la réaction des républicains est une réaction visant à essayer de gagner les élections au début novembre. Je disais dans le New York Times la semaine dernière qu'il est clair que les démocrates, plusieurs démocrates ayant voté contre ce projet de loi, ils croient maintenant que la population américaine peut-être juge cet état de crise permanent depuis 2001 comme étant un peu superflu dans les circonstances. Mais je suis tout à fait d'accord que s'il y avait une attaque terroriste aux États-Unis, je crois que le président Bush aurait l'appui non seulement d'une bonne majorité de la population, mais même de la part des démocrates. Et que donc, tous ces développements, il faut toujours tenir compte des développements au niveau politique et des développements au niveau d'actes terrorisme, de terrorisme. Donc, c'est très aléatoire en réalité, tout ce qu'on peut discuter dans un forum juridique à cet égard.
Selon vous, ça pourrait aller jusqu'à une forme d'appui auprès du gouvernement? Malgré ce que pense la Cour suprême, pour être un des premiers schismes de reconnaissance pour la Cour suprême.
Le point que vous avez soulevé tout à l'heure, et je crois que c'est très important, aux États-Unis, même des jeunes enfants qui ont en première année ou primaire pourraient vous nous dire quels sont les juges de la Cour suprême. Je ne crois pas que les enfants ici pourraient en première année pouvoir dire qui sont les juges de la Cour suprême du Canada.
Peut-être même dans cette pièce.
On ne vous posera pas la question. Il est très clair que c'est vrai que la Cour suprême est très respectée, selon moi, je serais malheureusement porté à croire que s'il y avait vraiment un acte de terrorisme important, les gens suivraient l'avis du président. Je crois.
Question. Commentaire.
Est-ce que la nouvelle loi du Congrès donne ce pouvoir au président pour un temps limité, quelques présidents que ce soit, ou seulement
Ben, je crois qu'il y avait eu un amendement qui avait été soumis, qui aurait permis l'inclusion. Comment on dit un sunset clause?
Une clause crépusculaire.
Wow, on apprend tous les jours. Clause crépusculaire.
Ah oui.
La prochaine fois que je vais jouer au Scrabble, je vais gagner certainement. Clause
crépusculaire. Ah oui, c'est un beau mot.
Mais, il y a eu un amendement qui a été rejeté, qui était celui d'inclure une clause crépusculaire, pour la loi aurait dû être comme réinvestiguée par le Congrès 5 ans, je crois, dans 5 ans. Et ça a été battu. Et ça aurait été certainement une bonne façon d'au moins peut-être limiter les pouvoirs c'est important.
Dans notre cours, on a vu qu'il y avait une clause dans la Constitution américaine ex post facto law. Est-ce qu'il y en était question dans les décisions de l'Union? Parce qu'on parlait tantôt qu'on pouvait renverser le tableau, mais peut-être que si la Cour suprême est saisie de la question, on va peut-être revoir la problématique. Non? En prenant la Constitution comme telle. Est-ce que vous comprenez le sens de ma question?
Oui, la répéter. Je peux comprendre, mais peut-être la répéter, s'il vous plaît.
Non, ce que j'ai compris des cours que je suis, c'est qu'à l'intérieur de la Constitution même, il y a une clause, il y a plusieurs clauses, et il y en a trois, dont une qui s'appelle ex post facto law, qui dit qu'on ne peut pas passer une loi pour rendre quelque chose illégal ou criminel lorsqu'elle ne l'était pas comme telle. Alors je pense que si la Cour suprême est saisie à nouveau d'une problématique, elle peut peut-être utiliser cet argument, cette clause de la Constitution.
Ce serait pas une possibilité, mais la Cour suprême, certainement si on regarde l'arrêt Hamdan, avait clairement indiqué qu'en réalité, le Congrès n'avait qu'à passer une nouvelle loi. Il avait passé une loi pour pouvoir rendre en fait ces commissions militaires tout à fait valables, valides. Donc en réalité, ce n'est pas vraiment une retrospective application du mot. Ce n'est pas vraiment ça, c'est en réalité simplement la création de commissions militaires. Donc, mais il est certain que je crois que la Cour suprême, si devait, je ne sais pas si la Cour décidait, si par exemple la loi avait contenu une clause disant que conspiration pour commettre des crimes de guerre est un crime aux États-Unis, je crois qu'à ce moment-là, il y aurait une question de danger que ce soit une loi ex post facto, puisqu'à l'époque où Hamdan aurait commis ces actes, ce n'était pas un crime. Est-ce que vous... Donc ça aurait été pour moi une question qui... Mais l'administration, je crois, il faut vraiment bien le dire, l'administration a fait bien ses devoirs. Parce que cette loi, vraiment, prend vraiment à l'écoute, est vraiment à l'écoute de ce que la Cour suprême a dit. Je crois qu'on peut être très critique de l'administration Bush, mais elle a fait ses devoirs très bien dans ce cas. C'est vraiment une victoire importante, du moins sur papier. La Cour suprême avait dit, il faut qu'il y ait une loi, parce qu'il n'y a pas d'autorité présentement pour le président de mettre sur pied ces commissions, la loi a été passée. La Cour, une majorité avait bel et bien dit que oui, on peut avoir des commissions militaires, mais il faut que le président fasse un argument très précis pourquoi les règles existantes avec les cours martiales ne sont pas suffisantes. Et maintenant, le président a clairement, il y a une indication à cette loi, que cette lutte contre le terrorisme est si importante qu'il faut pouvoir en réalité modifier certaines libertés fondamentales. Donc en réalité, il faut vraiment le dire, l'administration Bush a très bien fait ses devoirs.
C'est une application, si je comprends bien, professeur Costi, au Canada, on parle de charter to charter proof une loi, c'est-à-dire de la découper, de la ciseler très finement pour contourner l'effet des décisions de la Cour suprême. C'est un cas de charter proofing ou de constitution proofing américain, n'est-ce pas? Alors, on n'invente rien.
Dans le fond, est-ce que c'est possible de dire que le seul moyen d'attaquer ça, c'est de voir la constitutionnalité de l'acte même du Congrès?
Je crois qu'il y a, par exemple, dans cette loi, je n'ai peut-être pas eu le temps d'en discuter en détail, mais par exemple, le bref de habeas corpus, pour être mis de côté, il faut qu'il y ait vraiment, qu'il y ait une situation de crise, je crois. Et peut-être ça pourrait être attaqué devant les tribunaux, comme cette idée que maintenant, il n'y aura plus d'habeas corpus devant les tribunaux ordinaires, il y aura possibilité pour les gens d'aller devant ces tribunaux de révision du statut de combattant. Donc ça, c'est probablement une possible attaque constitutionnelle, en fait. Et je crois que plusieurs sénateurs américains, dont le sénateur Specter, ont indiqué clairement que l'habeas corpus, c'est vraiment au cœur du système de protection américain, et que toute atteinte devra vraiment être argumentée de façon très forte par l'administration. Et donc ça, oui. Je crois que malheureusement, maintenant, il faut jouer avec cette loi. Selon moi, il y a toujours une majorité devant la Cour suprême de 5 juges, et certainement 3 ou 4 qui probablement diront encore que les conventions de Genève ne sont tout de même pas respectées en pratique par certains développements dans cette loi. Mais ça sera très juste, très très serré si la cause va devant la Cour suprême. Puisque naturellement, il y aura Alito, Roberts, Scalia et Thomas qui seront en faveur du gouvernement. Je ne sais pas, au niveau de la majorité, probablement Kennedy et Stevens sont probablement clairement contre telle loi. Probablement Sutter et Breyer. Mais Ginsburg, je ne sais pas. Elle sera probablement celle qui fera pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Mais il faut rester à l'écoute, je crois, de ça.
Est-ce qu'il y a une autre question? Une dernière question à l'arrière, allez-y.
J'avais souvent l'impression que les Américains ne s'engageaient pas dans les cœurs de Tati, se préoccupaient un peu peut-être pas du droit international, mais de prioriser toujours leur souveraineté sur quelques prétentions d'obligations internationales, particulièrement sur la vie de leurs soldats à l'étranger. On parle de la Convention de Genève. Est-ce qu'il y a d'autres conventions qui pourraient être soulevées comme embarrassantes quant à leur comportement? Parce que jamais compris que les Américains s'embarrassaient trop de ça, surtout à la vie d'un soldat américain qui pourrait être plus important comme toute nation.
Je crois qu'au niveau, vous avez certainement raison que pour ce qui est du traitement qui pourrait être infligé à des soldats américains à l'étranger, c'est pour cela que le sénateur McCain avait failli en réalité faire tomber ce projet de loi, parce qu'il voulait absolument que ces conventions de Genève soient respectées. Donc les Américains croient vraiment très fortement dans le respect, le besoin de respecter, la nécessité de respecter les conventions de Genève. Pour ce qui est d'autres instruments internationaux, comme je disais auparavant, par exemple, si je prends la Convention contre la torture, clairement, la loi fédérale sur les crimes de guerre a toujours clairement indiqué que la torture doit être interdite. Il y a plusieurs autres statuts aux États-Unis qui disent clairement que la torture ne peut jamais être utilisée par un agent fédéral, par un agent américain. Mais, si on regarde le droit américain, ce n'était jamais très clair qu'est-ce qu'il y en est de comportements qui ne sont pas de la torture, mais qui peuvent quand même infliger un traitement dégradant, inhumain et cruel. Et jusqu'à récemment, on ne semblait pas trop s'en faire aux États-Unis, mais dans les deux dernières années, on a montré l'importance qu'il fallait aussi inclure ce genre de comportement. Et probablement, on pourrait fort bien dire, ce n'est simplement toujours pour une question de réciprocité. Parce que si on commence à infliger des traitements jugés dégradants à d'autres, il y a la possibilité que des Américains puissent être sujets à ce même genre de traitement. Je crois que les Américains ou les États-Unis, et enfin, ils ne sont pas les seuls, je crois que beaucoup de pays appliquent le droit international quand ils y voient le besoin d'une réciprocité. Peut-être parfois les États-Unis ne voient-ils pas la nécessité pour eux de respecter le droit international, mais je crois que souvent on exagère la portée de... Même moi, je critique parfois le régime américain, mais les États-Unis ont toujours été parmi les pays qui ont fait le plus, je crois, pour la protection des droits de l'homme. Ils ont certainement indiqué, même auprès de certaines nations amies, que les administrations locales procédaient à des actes de torture. La seule chose, c'est qu'il semble parfois y avoir deux poids, deux mesures.
Parce que la réciprocité entre États, ici, il y a toujours une question, c'est pas la réciprocité entre États, c'est souvent... Face à, on ne sait pas qui, un organisme qui évolue. Ils font souvent valoir que c'est difficile de négocier la responsabilité avec un organisme qui évolue.
Je ne comprends pas le sens de la question.
C'est que souvent, ils invoquent le fait que la responsabilité est possible entre États,
oui.
Mais pas avec un organisme qui évolue.
Oui, je suppose que c'est une possibilité, c'était un argument possible. Je crois que quand même, si je prends l'exemple de l'article 3 de la Convention de Genève, l'article 3 commun aux Conventions de Genève, ça, même si en réalité la Convention ne s'applique qu'aux États, l'article 3 dit clairement que même que non seulement les États doivent appliquer la Convention de Genève, mais en réalité, on s'attend à ce que même l'autre partie qui n'est pas un État, qui est partie à ce conflit international, devrait le faire. Je crois qu'il y a un point qui est vrai, que ces activités terroristes sont vraiment défient les concepts traditionnels de droit international et ces relations État à État. Je ne suis pas persuadé qu'il faut à ce moment-ci réinventer le système de droit international. Mais certainement, il faut garder cela à l'esprit. Moi, je crois que tout un État qui respecte le droit international ne le fera pas simplement en vertu de possible réciprocité. Ils le feront parce que, dans beaucoup de cas, ils croient que plus d'États respectent le droit international, plus les États mécréants vont le faire aussi à l'avenir. Mais c'est ouvert à débat.
Alors, voilà, en votre nom, je voudrais tout d'abord remercier le professeur Costi pour un exposé tout à fait palpitant, à jour et qui nous renseigne sur nos voisins du Sud, encore une fois, une relation parfois difficile. D'ailleurs, on pourra continuer à échanger avec le professeur Costi immédiatement. Je vois qu'il y a deux bouteilles de vin qui sont apparues. Alors, je vous invite au vin de l'amitié, mais auparavant, je voudrais qu'on manifeste notre appréciation très sentie au professeur Costi. Alors, merci beaucoup.